Livre 5e, chapitre 3. Crisis immortelle. Quand Démétrios se retrouva seul dans son atelier rouge encombré de marbre, de maquettes, de chevalets et d'échafaudages, il voulut se remettre au travail. Le ciseau dans la main gauche et le maillet au poing droit, il reprit, mais sans ardeur, une ébauche interrompue. C'était l'encolure d'un cheval gigantesque destiné au temple de Poséidon. Sous la crinière coupée en brosse, la peau du cou, plissée par un mouvement de la tête, s'incurvait géométriquement comme une vasque marine onduleuse. 3 jours auparavant, le détail de cette musculature régulière concentrait dans l'esprit de Démétrios tout l'intérêt de la vie quotidienne. Mais le matin de la mort de Crisis, l'aspect des choses sembla changer. Moins calme qu'il ne voulait l'être, Démétrios n'arrivait pas à fixer sa pensée occupée ailleurs. Une sorte de voile insoulevable s'interposait entre le marbre et lui. Il jeta son maillet et se mit à marcher le long des piédestaux poudreux. Soudain, il traversa la cour, appela un esclave et lui dit « Prépare la piscine et les aromates. Tu me parfumeras après m'avoir baigné. Tu me donneras mes vêtements blancs et tu allumeras les cassolettes rondes. » Quand il eut achevé sa toilette, il fit venir 2 autres esclaves. « Allez, dit-il, à la prison de la reine. Remettez au geôlier cette motte de terre glaise et faites-la lui porter dans la chambre où est morte la courtisane Crisis. Si le corps n'est pas jeté déjà dans la basse fosse, vous direz qu'on s'abstienne de rien exécuter avant que j'en ai donné l'ordre. Courez en avant, allez !» Il mit un ébauchoir dans le pli de sa ceinture et ouvrit la porte principale sur l'avenue déserte du Drôme. Soudain, il s'arrêta sur le seuil, stupéfié par la lumière immense des midis de la terre africaine. La rue devait être blanche et les maisons blanches aussi, mais la flamme du soleil perpendiculaire lavait les surfaces éclatantes avec une telle furie de reflets que les murs de chaux et les dalles réverbéraient à la fois des incandescences prodigieuses de bleu, d'ombre, de rouge et de vert, d'ocre brutal et d'hyacinthe. De grandes couleurs frémissantes semblaient se déplacer dans l'air et ne couvrir que par transparence l'ondoiement des façades en feu. Les lignes elles-mêmes se déformaient derrière cet éblouissement. La muraille droite de la rue s'arrondissait dans le vague, flottait comme une toile et, à certains endroits, devenait invisible. Un chien couché près d'une borne était réellement cramoisi. Enthousiasmé d'admiration, Démétrios vit dans ce spectacle un symbole de sa nouvelle existence. Assez longtemps, il avait vécu dans la nuit solitaire, dans le silence et dans la paix. Assez longtemps, il avait pris pour lumière le clair de lune et pour idéal la ligne nonchalante d'un mouvement trop délicat. Son œuvre n'était pas virile. Sur la peau de ses statues, il y avait un frisson glacé. Pendant l'aventure tragique qui venait de bouleverser son intelligence, il avait senti pour la première fois le grand souffle de la vie enfler sa poitrine. S'il redoutait une seconde épreuve, si, sorti victorieux de la lutte, il se jurait avant toute chose de ne plus s'exposer à fléchir sa belle attitude prise en face d'autrui, du moins venait-il de comprendre que cela seul vaut la peine d'être imaginé qui atteint par le marbre, la couleur ou la phrase, une des profondeurs de l'émotion humaine, et que la beauté formelle n'est qu'une matière indécise, susceptible d'être toujours, par l'expression de la douleur ou de la joie, transfigurée. Comme il achevait ainsi la suite de ses pensées, il arriva devant la porte de la prison criminelle. Ses 2 esclaves l'attendaient là. « Nous avons porté la motte de terre rouge, dirent-ils. Le corps est sur le lit, on n'y a pas touché. Le geôlier te salue et se recommande à toi. » Le jeune homme entra en silence, suivit le long couloir, monta quelques marches et pénétra dans la chambre de la morte où il s'enferma soigneusement. Le cadavre était étendu, la tête basse et couverte d'un voile, les mains allongées, les pieds réunis. Les doigts étaient chargés de bagues, deux périssélices d'argent s'enroulaient sur les chevilles pâles et les ongles de chaque orteil étaient encore rouges de poudre. Démétrios porta la main au voile afin de le relever. Mais à peine l'avait-il saisi qu'une douzaine de mouches rapides s'échappèrent de l'ouverture. Il eut un frisson jusqu'aux pieds. Pourtant, il écarta le tissu de laine blanche et le plissa autour des cheveux. Le visage de Chrysis s'était éclairé peu à peu de cette expression éternelle que la mort dispense aux paupières et aux chevelures des cadavres. Dans la blancheur bleuâtre des joues, quelques vénules azurées donnaient à la tête immobile une apparence de marbre froid. Des narines diaphanes s'ouvraient au-dessus des lèvres fines. La fragilité des oreilles avait quelque chose d'immatériel. Jamais, dans aucune lumière, pas même celle de son rêve, Démétrios n'avait vu cette beauté plus qu'humaine et ce rayonnement de la peau qui s'éteint. Et alors, il se rappelle les paroles dites par Chrysis pendant leur première entrevue. « Tu ne connais pas mon visage, tu ne sais pas comme je suis belle. » Une émotion intense l'étouffe subitement. Il veut connaître enfin. Il le peut. De ces 3 jours de passion, il veut garder un souvenir qui durera plus que lui-même, mettre à nu l'attitude violente où il l'a vue en songe et créer d'après le cadavre la statue de la vie immortelle. Il détache l'agrafe et le nœud. Il ouvre l'étoffe. Le corps pèse. Il le soulève. La tête se renverse en arrière. Les seins tremblent. Les bras s'affaissent. Il tire la robe tout entière et la jette au milieu de la chambre. Lourdement, le corps retombe. De ses 2 mains sous les aisselles fraîches, Démétrios fait glisser la morte jusqu'au haut du lit. Il tourne la tête sur la joue gauche, rassemble et répand la chevelure splendidement sous le dos couché. Puis, il relève le bras droit, plie l'avant-bras au-dessus du front, fait crisper les doigts encore mous sur l'étoffe d'un coussin. 2 lignes musculaires admirables, descendant de l'oreille et du coude, viennent s'unir sous le sein droit qu'elle porte comme un fruit. Ensuite, il dispose les jambes, l'une étendue roidement de côté, l'autre, le genou dressé et le talon touchant presque la croupe. Il rectifie quelques détails, plie la taille à gauche, allonge le pied droit et enlève les bracelets, les colliers et les bagues afin de ne pas troubler par une seule dissonance l'harmonie pure et complète de la nudité féminine. Le modèle a pris la pose. Démétrios jette sur la table la motte d'argile humide qu'il a fait porter là. Il la presse, il l'allonge selon la forme humaine. Une sorte de monstre barbare naît de ses doigts ardents. Il regarde. L'immuable cadavre conserve sa position passionnée, mais un mince fil de sang sort de la narine droite, coule sur la lèvre et tombe goutte à goutte sous la bouche entrouverte. Démétrios continue. La maquette s'anime, se précise, prend vie. Un prodigieux bras gauche s'arrondit au-dessus du corps comme s'il étreignait quelqu'un. Les muscles de la cuisse s'accusent violemment. Les orteils se recroquevillent. Quand la nuit monta de la terre et obscurcit la chambre basse, Démétrios avait achevé la statue. Il fit porter par 4 esclaves l'ébauche dans son atelier. Dès le soir même, à la lueur des lampes, il fit dégrossir un bloc de Paros et 1 an après cette journée, il travaillait encore au marbre.